La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'affiche de la compagnie des auteurs cette semaine, Alexandre Dumas-Père, l'auteur des Trois Mousquetaires. Dans une émission qui vous est proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Chloé Kaczmarek, David Jakubowiez et Jean-Guilain Meige. C'est donc d'un grand maître du récit dont il va être question jusqu'à jeudi, dans cette émission. Alexandre Dumas, dont l'écriture cavalcadente et le sens du dialogue enlevé ont longtemps été regardés de haut, comme on le fait souvent avec les littératures qui emportent le lecteur. Sainte-Beuve disait d'ailleurs de lui qu'il embrassait bien, mais n'était pas tout à fait comme Balzac. Nous verrons ce qu'en pensent nos invités de cette semaine, mais ils ne devraient pas être tellement d'accord. Et parmi nos invités, il y aura Sylvain Léda, biographe de Dumas, mais également auteur de nombreuses préfaces à ses œuvres. Il viendra nous parler demain, notamment de son théâtre. Mercredi, c'est un autre grand spécialiste que nous accueillerons dans ce studio, en la personne de Claude Schoppe, pour un panorama de l'œuvre et pour parler en particulier de la trilogie des Mousquetaires. Enfin, jeudi, avec Mathieu Letourneux, nous évoquerons la forme du feuilleton chez Dumas, ainsi que la manière dont il a construit un mythe autour du personnage historique du Mousquetaire, jusqu'à en faire un idéal type. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour notre traditionnelle émission introductive et biographique, je reçois Julie Anselmini, professeure de littérature à l'université de Caen, auteure notamment de l'essai « Le roman d'Alexandre Dumas-Père » ou « La réinvention du merveilleux » publié chez Dro en 2010. Elle a également réalisé l'édition du livre « Gaulle et France » dans lequel Dumas retrace l'histoire de la France depuis la civilisation gauloise jusqu'à l'arrivée des Valois. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Mon père, à l'âge de 24 ans qu'il avait alors, était un des plus beaux jeunes hommes qu'on pût voir. Il avait ce teint bruni, ses yeux marrons et veloutés, ce nez droit, qui n'appartiennent qu'au mélange des races indiennes et caucasiques. Il avait les dents blanches, les lèvres sympathiques, le cou bien attaché sur de puissantes épaules, et malgré sa taille de 5 pieds 9 pouces, une main et un pied de femme. Ce pied surtout faisait damner ses maîtresses, dont il était bien rare qu'il ne pût pas mettre les pantoufles. À l'époque où il l'épousa, son mollet était juste de la grosseur de la taille de ma mère. La liberté dans laquelle il avait vécu aux colonies avait développé son adresse et sa force d'une manière remarquable. C'était un véritable cavalier américain, un gaucho. Le fusil ou le pistolet à la main, il accomplissait des merveilles dont Saint-Georges et Junot étaient jaloux. Quant à sa force, elle était devenue proverbiale dans l'armée. Plus d'une fois au régiment, il s'amusa au manège, en passant sous quelques poutres, à prendre cette poutre entre ses bras et à enlever son cheval entre ses jambes.
Et bien voilà, tout naturellement, un extrait des mémoires d'Alexandre Dumas dans lequel il évoque son père, une lecture de Pierre Olivier. Bonjour Julie Anselmini.
Bonjour.
Alors, ces mémoires d'Alexandre Dumas, quand on apprend que son père pouvait soulever son cheval avec ses jambes, dans quelle mesure peut-on leur faire confiance ?
Alors c'est sans doute une version un petit peu idéalisée ou sublimée de la réalité. Cela dit, on sait que le père d'Alexandre Dumas, qui était né en 1762 à Saint-Domingue, était effectivement d'une force herculéenne. Il s'était taillé la réputation d'un véritable Hercule dans les rangs de l'armée, dans lesquels il avait d'ailleurs assez rapidement gravi les échelons jusqu'au plus haut, puisqu'il était devenu général aux côtés du général Bonaparte, aux côtés duquel aussi il a fait toute une série d'expéditions sous la Première République, puis sous l'Empire.
Donc vous pensez qu'on peut lire les mémoires de Dumas comme une autobiographie ?
C'est une autobiographie. La question de la fidélité à la réalité ou de la sincérité est toujours un petit peu délicate à poser concernant ce genre. Et pour ce qui est du père de Dumas, sans doute l'auteur en a-t-il une vision assez idéalisée, puisque le père de Dumas est mort en 1806 alors que Dumas n'avait que 4 ans. Donc il l'a connu en fait assez peu d'années, alors que son père aussi était déjà malade depuis 1801.
On va en parler justement. Mais tout de même, il y a un sentiment de mystère quand on évoque la personnalité de Dumas. Julien Salmini, vous ne trouvez pas ?
Mystère concernant ses origines ou le...
Oui, on ne peut pas dire que la vie d'Alexandre Dumas soit dans la complète transparence. On a l'impression que tout cela est très romancé, ça n'est pas votre avis?
C'est une vie qui est très romanesque, je trouve, parce qu'elle abonde en péripéties amoureuses, en voyages, en productions littéraires, bien sûr. C'est une vie qu'on romancerait de façon assez aisée, et probablement Dumas l'a fait le premier à travers ses mémoires, qui reste quand même un document, je pense, relativement fiable.
Ouais. Alors il dit notamment « Mon premier désir est illimité, ma première inspiration va vers l'impossible ». Il le dit dans ses mémoires, Julie Anselmini. Ça c'est tout à fait un autoportrait de sa personnalité. L'impossible, l'illimité, c'est son horizon.
Oui, je pense qu'en effet, c'est un auteur qui ne doute de rien. Quand il décide en 1823 de monter à Paris, jeune provincial débarqué de Villers-Cotterêts pour conquérir la fortune et la gloire à la pointe de sa plume, eh bien, quelques années plus tard, il y parvient. Mmh. En 1829, avec Henri III et sa cour, ça devient un dramaturge de tout premier plan. Oui. L'une des célébrités littéraires de Paris.
Mais n'allons pas trop vite tout de même. Les mémoires, il y a aussi du théâtre, il y a aussi des récits de voyage. On a l'impression qu'il a pu embrasser tous les genres.
Oui, il a aussi écrit des contes. Il a écrit toute une série de chroniques journalistiques. Il a fait des causeries. Il a écrit cette autobiographie dont on parlait à l'instant. Donc en effet, il a embrassé tous les genres avec une sorte d'appétence pour la totalité et voire l'impossible.
Alors vous évoquiez donc son père, Julien Salmini. C'est vrai que c'est un personnage particulièrement passionnant. Quand Alexandre Dumas, père, donc l'écrivain, né le 24 juillet 1802, eh bien la veille, le général Dumas a été dégradé par Napoléon. Expliquez-nous un petit peu dans quelles circonstances, pourquoi.
Alors, on disait qu'il avait fait une carrière glorieuse sous la Première République, puis sous le Consulat et le Premier Empire.
Parti de rien, lui aussi.
Parti de rien. Hein. Il est né donc de ce marquis David de la Pailleterie, qui était planteur à Saint-Domingue, et puis d'une esclave ou d'une affranchie, on ne sait pas très bien. Noire, Marie-Césette Dumas, et donc effectivement, parti de rien, il est devenu général. Alors pour ce qui est de sa disgrâce, on sait qu'elle est probablement due à des dissensions qui ont éclaté entre le général Dumas et puis Bonaparte à propos de l'expédition d'Égypte en 1799.
Où ils sont allés ensemble.
Absolument. Et donc, on sait que le général Dumas a refusé de suivre plus loin le Bonaparte hein, dans son expédition et dans ses guerres de conquête.
Il a refusé pour ne pas mettre en danger ses hommes ?
Alors, on ne sait pas exactement si c'est cette raison qui a prévalu. Toujours est-il qu'en 1799, il décide de rentrer en France en passant par Naples. Et il se fait arrêter par le roi Ferdinand de Naples. Et il va passer de longs mois enfermé dans les cachots du roi de Naples, où probablement il est empoisonné. En tout cas, il y contracte un cancer à l'estomac qui probablement explique sa mort encore jeune, à 40 ans, en 1806.
Et Napoléon, qui avait promis au général et à sa femme d'être le parrain de leur premier enfant, de leur premier garçon, eh bien finalement ne remplira pas cette promesse. C'est une forme de trahison.
Alors non seulement il ne tiendra pas cette promesse, mais après la mort du général Dumas, sa veuve sollicitera en vain de l'empereur une pension ou de quelconque subside. Sans l'obtenir, de sorte que le petit Alexandre Dumas et sa maman connaîtront des années très difficiles hein, presque de, on dirait pas de misère, mais vraiment de difficultés matérielles.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons d'Alexandre Dumas avec vous, Julie Anselmini. Alors, il est né à Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, c'est évidemment une ville qui, dans l'imaginaire français, dans l'imaginaire de la langue française, a son importance.
Oui, elle est associée au, à l'origine, hein, presque, de, des textes rédigés en, en français.
Vous pensez que ça a pu... inconsciemment, le fait que l'édit de Villers-Cotterêts institue la langue française comme étant la langue officielle, que ça a pu jouer dans l'imaginaire d'Alexandre Dumas.
Alors, il est difficile de tâcher de percer ces motivations inconscientes. Il me semble que ce qui joue beaucoup chez lui, pour ce qui est des explications, hein, qui le porte à prendre la plume et à la prendre aussi comme instrument d'ascension sociale, je crois que le sort de son père qu'on évoquait à l'instant a joué un rôle assez considérable, parce que d'une part, ce père était glorieux. Il s'était illustré dans les armes, mais d'un autre côté, il avait été disgracié. Mmh. Et on a le sentiment que Dumas a le désir de venger d'une certaine façon son père. Et on sait d'ailleurs que le thème de la vengeance est extrêmement important dans son œuvre. Moi, je crois qu'il y a un désir de revanche de la part d'Alexandre Dumas, désir de racheter par sa propre gloire la disgrâce qui a été faite à son père.
Qu'il admirait énormément.
Qu'il admirait beaucoup. Il en parle avec beaucoup de tendresse dans ses mémoires. Et peut-être effectivement ce motif-là s'est conjugué avec celui que vous évoquiez, symbolique.
Oui. Donc c'est une famille, malgré les difficultés dont vous avez parlé, due à l'arriéré de solde qui n'est pas payé au général, père de Dumas, c'est une famille qu'on peut qualifier d'unie. C'est une enfance qui se passe bien.
Alors c'est une enfance heureuse, du moins Dumas l'évoque-t-il ainsi dans ses mémoires. Le petit Alexandre Dumas vit une enfance très libre. On tâche de le faire aller à l'école. En réalité, il suit plus ou moins des leçons particulières auprès du bon abbé Grégoire, qui tâche un petit peu vainement de lui inculquer le latin. Oui. En réalité, Alexandre Dumas préfère faire l'école buissonnière. Il adore la chasse, déjà notamment à la pipée. Il pose des pièges. Il arpente dans tous les sens la forêt de Villers-Cotterêts. Il vagabonde. Il a un lien très fort avec sa mère, avec qui il restera lié toute sa vie, jusqu'à la mort de sa mère en 1838, qui l'affectera d'ailleurs beaucoup. Mm-hmm. Donc oui, je crois que c'est une enfance libre et heureuse.
Donc il cause des misères, je crois, avec ses camarades, à ce pauvre abbé Grégoire. Et il a une prédilection pour la mythologie, pour les personnages de la mythologie.
Alors oui, il raconte dans ses mémoires qu'il lit avec passion des livres de mythologie, dont il contemple rêveusement les illustrations. Je crois que le goût de Dumas pour la mythologie, qui est parfois affiché de façon assez ostentatoire, presque un peu cuistre,
ah oui,
dans son œuvre, est peut-être dû aussi au fait que Dumas, en réalité, on le disait, a une éducation assez libre, une formation pas du tout académique. Il ne fréquentera jamais les bons établissements parisiens comme toute une pléiade d'écrivains de sa génération. Et donc, en fait, son éducation, il la fera lui-même un peu sur le tard, à partir des années 1820, lorsqu'il sera installé à Paris. Donc, c'est très largement un autodidacte, et je crois que parfois, chez lui, il y a le désir un peu de, on pourrait presque dire, d'étaler un petit peu une culture qui, finalement, est d'un petit peu fraîche date.
Oui, c'est pour ça qu'il est cuistre, selon vous, dans son rapport à la mythologie, à l'étalage de ses savoirs.
Ouais, le terme est un peu sévère, mais c'est vrai que Dumas aime bien aussi insérer des citations latines dans son œuvre de façon parfois un peu gratuite.
Oui. Alors le voilà donc qui se rend à Paris, il a 20 ans, et Paris, on en parlera demain, du théâtre avec Sylvain Léda, mais c'est vraiment la ville du théâtre. On a l'impression que cette ville se confond même avec cette activité artistique qu'est le théâtre.
Alors Dumas, dès avant son arrivée à Paris, a beaucoup de goût pour le théâtre, qu'il découvre d'ailleurs surtout à partir d'adaptations de pièces de Hamlet, adaptées par Doukis et jouées par des comédiens de province qui tournent à Villers-Cotterêts. Et alors qu'il est encore adolescent, il commet quelques essais de vaudeville avec son ami Adolphe de Leven. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui pousse en quelque sorte Dumas à venir à ses côtés à Paris. Donc en 1823, Dumas arrive à Paris. Et en effet, je crois que dans ces années-là, pour un auteur qui veut rapidement conquérir la célébrité, le théâtre est encore le moyen le plus rapide et le plus efficace.
Et il va y arriver avec beaucoup de facilité.
En 1829, Alexandre Dumas fait représenter Henri III et sa cour. Le drame romantique arrive enfin ici au Triomphe. Du jour au lendemain, le modeste employé de l'administration du duc d'Orléans devient un roi de Paris. Sa silhouette lipue sera de toutes les fêtes, de toutes les manifestations mondaines ou littéraires. Dumas gravit le premier échelon d'une gloire qui s'affermira plus tard avec Antony, la Tour de Nesle, les Trois Mousquetaires et Joseph Balsamo. Il a à ce moment 26 ans et il évoque ses débuts dans ses mémoires. Ceux qui ont assisté à cette représentation de Henri III se rappellent quel magnifique coup d'œil elle offrait. La première galerie était encombrée de princes chamarrés d'ordre de 5 à 6 nations. L'aristocratie tout entière était entassée dans les premières et les secondes loges. Les femmes ruisselaient de diamants. C'était la première fois qu'on voyait aborder au théâtre des scènes dramatiques avec cette franchise, je dirais presque avec cette brutalité. Ce ne fut plus un succès, ce fut un délire croissant. Toutes les mains applaudissaient, même celles des femmes.
Toutes les mains applaudissaient, même celles des femmes, nous explique Louis Jouvet, qui raconte donc les débuts au théâtre d'Alexandre Dumas. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette archive, Julie Anselmini ?
Je pense que c'est très évocateur, effectivement, de cet événement qu'a été pour Dumas la représentation d'Henri III et sa cour à la Comédie Française, hein, la Comédie Française, le bastion du théâtre classique, en février 1829.
Donc il y arrive très vite, alors ça a l'air assez simple, cette entrée dans la gloire au fond, mais peut-être pas tant que ça.
Alors Dumas fréquente quand même les cénacles romantiques depuis le milieu des années 1820. Il est introduit à l'Arsenal par Charles Nodier, il côtoie également Hugo. Donc il s'est créé comme ça tout un réseau d'amitiés littéraires et artistiques. Et puis il commence à écrire des vaudevilles en collaboration avec des auteurs relativement obscurs. Et puis par ailleurs, avant 1829, Dumas écrit un drame qui s'appelle Christine de Suède, qui est lu à la Comédie Française et qui est accepté avec réserve et qui finalement ne sera pas monté. Donc il y a comme ça des essais dramatiques qui préparent un petit peu cet accès à la célébrité de Dumas, mais c'est vrai que cet accès est tout à fait foudroyant. C'est en plus un événement un petit peu mondain que cette première représentation d'Henri III et sa cour. Dumas est alors devenu le bibliothécaire adjoint du duc d'Orléans, futur Louis-Philippe. Donc le tout Paris est là, le duc d'Orléans lui-même. Et cette représentation est un succès. C'est en fait le tout premier drame romantique aussi. On cite souvent Hernani en 1830 comme le premier drame romantique. En réalité, on peut considérer que c'est Henri III et sa cour. Donc il y a tout ce qu'il faut pour remporter le succès. Il y a de la passion, il y a de la violence sur scène. C'est un drame historique aussi. Et voilà, et effectivement, le public est conquis.
Et puis, il y a ce personnage aussi de Dumas lui-même, qui aime surprendre, qui aime paraître et apparaître.
Alors, Dumas, dans ces années-là, est très grand, il est très beau, il a beaucoup de succès auprès des femmes. Il est d'ailleurs déjà père d'un petit garçon qu'il a nommé Alexandre, qui est né en 1824. Il accumule les maîtresses, souvent des comédiennes. Et c'est effectivement un jeune homme très en vue et qui tient ses promesses ce soir-là de février 1829.
Alors, puisque vous parlez du physique d'Alexandre Dumas, j'aimerais vous citer un extrait de ses mémoires dans lequel il parle de son physique. C'est plutôt quand il est un peu plus jeune. « Quant au physique, je faisais un assez joli enfant. J'avais de longs cheveux blonds bouclés qui tombaient sur mes épaules et qui ne crêpèrent que lorsque j'eus atteint ma 15e année. De grands yeux bleus qui sont restés à peu près ce que j'ai encore aujourd'hui de mieux dans le visage. Un nez droit, petit et assez bien fait. De grosses lèvres roses et sympathiques, des dents blanches et assez mal rangées. Là-dessus, enfin, un teint d'une blancheur éclatante, lequel était dû à ce que prétendait ma mère, à l'eau de vie que mon père l'avait forcé à boire pendant sa grossesse et qui tourna au brun à l'époque où mes cheveux tournèrent au crépus. » Et donc ce passage, durant son adolescence et jusqu'à l'âge adulte, d'un physique blanc vers un physique métis, on imagine que ça a dû être important pour Dumas, qui voyait ressurgir des origines noires. Dans quelle mesure est-ce que pour lui ça a été un identifiant très important de sa vie à ce moment-là, Julien Selmini?
Alors, de façon générale, dans la vie et dans la carrière de Dumas, c'est vrai que ce métissage de l'écrivain a beaucoup été mis en avant ces derniers temps.
Maintenant que dans les études précédentes?
Alors, disons que ce qui m'a frappé, c'est qu'en 2002, lors de la panthéonisation de Dumas, le discours de Jacques Chirac, qui était alors président de la République, avait beaucoup mis en avant cet aspect de l'écrivain. Et récemment, le président Emmanuel Macron insiste également sur cette dimension de métissage, qui effectivement est constitutif de Dumas. Cela dit, lui-même en réalité en parle très peu. Mmh. C'est quelque chose qu'il n'occulte pas du tout, notamment dans les descriptions physiques qu'il fait de sa personne. Mais si on scrute son œuvre, à la fois fictionnelle ou autobiographique, il parle assez peu de ses origines. Il y a un roman, Georges, qui aborde frontalement la question, disons, raciale, en évoquant des événements survenus sur l'île Maurice aux alentours de 1810. Il y a une lettre de Dumas aux Haïtiens qui date de 1838, les Haïtiens ayant souhaité à ce moment-là rendre hommage au père de Dumas. Et il y a alors un appel à souscription qui est lancé pour lui édifier une statue. On sait aussi que Dumas a été victime d'allusions ou de propos racistes. Je ne sais plus qui d'ailleurs disant à Dumas, suggérant qu'il ressemblait à un singe, et Dumas avec beaucoup de répartie lui disant que en ce cas sa famille commençait, le bonhomme avait dû dire à Dumas que sa famille commençait au singe, et Dumas lui avait rétorqué que en ce cas sa propre famille commençait là où celle de son interlocuteur s'achevait.
Mmh. Mais on n'a pas le sentiment de quelqu'un qui revendiquerait quelque chose, peut-être assez anachronique aussi de penser comme ça.
Sincèrement, je crois qu'il y a une part d'anachronisme. La réception d'un auteur est aussi affaire de sensibilité contemporaine. Et dans le cas de Dumas, je crois que c'est beaucoup mis en avant, alors que pour lui, probablement ça a compté, également dans ce désir de revanche qu'on évoquait tout à l'heure. Sans doute, Dumas a été victime de propos et d'allusions racistes qui ont accentué chez lui ce désir de revanche sociale. Mais je pense que ce serait un peu abusif finalement de vouloir en faire un élément totalement déterminant dans sa vie ou son œuvre.
Thank you.
compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Julie Anselmini, on ne détecte pas forcément dans tout ce que vous nous avez dit jusque-là la trajectoire d'écrivain la trajectoire adolescente de Dumas. Par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui visiblement avait lu énormément, qui connaissait très bien la littérature quand il arrive à Paris. Qu'est-ce qui explique, au fond, qu'il devienne écrivain alors qu'a priori, il ne semblait pas en avoir la vocation ?
Alors, il est quand même loin d'être illettré. Hein. Il bénéficie quand même d'une certaine instruction.
Oui, mais vous dites qu'il ne connaissait pas Molière très bien, ni Racine, ni Corneille, ni Shakespeare, ni Walter Scott, que ce sont pas des noms qui apparemment lui sont familiers.
Alors, quand il arrive à Paris en 1823 et qu'il se fait embaucher grâce à la recommandation d'un ami de son père dans les bureaux du duc d'Orléans, Dumas bénéficie de pas mal de temps libre. Et ce temps, il va le mettre à profit pour justement refaire son éducation et son instruction. Et à ce moment-là, il lit à la fois les classiques, Molière, Corneille, hein, plus que Racine d'ailleurs, notamment des dramaturges. Et puis par ailleurs, il lit tous ces auteurs qui ont le vent en poupe, Shakespeare, Schiller, Byron, Walter Scott, qui va être une véritable révélation pour Dumas.
Oui, c'est le roman historique.
Voilà. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la prose narrative et historique, je crois que Walter Scott a joué un rôle vraiment important pour Dumas. Il en parle dans ses mémoires comme d'une véritable révélation pour lui. Il dit que à ce moment-là, son horizon s'ouvrit et s'élargit d'un coup. Il y voit une sorte de formule. Il a d'assez longue date aussi beaucoup de goût pour l'histoire. Dès 1833, il écrit cet essai, Gaulle et France, qui est une sorte de vaste panorama de l'histoire de France depuis ses origines gallo-romaines jusqu'au XIVe siècle. Et déjà dans cet essai assez précoce, il définit d'une certaine façon le projet qui sera le sien de peindre l'histoire de France dans son entier à travers une série de... Alors il prononce pas encore le terme de roman, il pense plutôt à des chroniques historiques. Mais ce projet d'embrasser l'histoire de France à travers une série de textes, il est en fait assez précoce chez Dumas. Et déjà dans les années où il est avant tout dramaturge. Mais comme il le dit, le théâtre ne saurait lui suffire. Il veut plus, il veut tout.
Ouais. Mais est-ce qu'il va devenir un grand lecteur ou est-ce qu'il restera toujours finalement quelqu'un qui a certes lu, a certes des connaissances, mais dont l'inspiration vient plutôt de lui-même et de son imagination propre?
Alors ça, c'est l'idée que Dumas, finalement, était un lecteur d'assez fraîche date et qu'il avait une instruction comme ça, un peu une sorte de vernis d'instruction, c'est quelque chose qui lui a beaucoup été reproché par certains critiques de l'époque. On a beaucoup accusé Dumas de plagier des auteurs. On lui a beaucoup reproché aussi d'étaler une culture acquise de fraîche date. Bon, je crois que Dumas a une vraie instruction et que c'est un grand lecteur, hein, surtout à partir des années 1820. Et puis par ailleurs, quand il s'attelle à un projet, on sait qu'il, en pareil cas, il se rend dans les bibliothèques, il lit énormément. Alors il se fait aussi aider, on le sait bien, de collaborateurs hein, qui lui fournissent aussi une partie de sa documentation et parfois des canevas à partir desquels il travaille. Mais je crois que chez Dumas, il y a la lecture, l'innutrition des grands auteurs et puis l'élan de l'imagination. Les deux, à mon avis, entrent dans le processus de création.
Mais est-ce que sa supposée ignorance ne l'aurait pas paradoxalement servi sur son chemin d'écrivain? Est-ce que la volonté d'apprendre, la volonté de savoir ne viendrait pas aussi du regard négatif qu'on portait sur lui et que vous venez de décrire, Julie Anselmini?
Alors d'une part, je pense qu'il y a une véritable fraîcheur chez Dumas du fait de ne pas avoir reçu une instruction ultra académique. Le fait qu'il invente, hein, aux côtés de Hugo, le drame romantique n'est peut-être pas étranger à cette à cette particularité qu'il a d'avoir été largement un autodidacte. Et puis,
ça lui enlève des complexes, peut-être.
Peut-être. Cela dit, ce désir aussi, cet appétit de savoir que vous évoquez, il me semble aussi très important dans le rapport de Dumas avec ses lecteurs. Amuser et instruire, c'est vraiment la devise d'écrivain de Dumas. Et il sera particulièrement fier quand Michelet lui dira, bien plus tard, qu'il a appris à travers ses romans plus d'histoire au public que tous les historiens réunis.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Julie Anselmini, nous allons continuer à raconter la vie d'Alexandre Dumas, mais avant cela, je vous propose de nous intéresser à un journal en ligne que vous connaissez sans doute et qui s'appelle En attendant Nadeau, et c'est l'universitaire romancière et membre de la direction de ce journal, Tiphaine Samoyau, qui vient aujourd'hui nous dire bonjour. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Mathieu.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas En attendant Nadeau, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les quelques principes qui en marquent le fondement ?
Bien sûr. Alors déjà, ce journal est gratuit, accessible sur Internet à l'adresse www.en-attendant-nadeau.
Oh, c'est compliqué. Vous tenez à dire journal, vous voulez pas dire site Internet?
Oui, on tient à dire journal, d'abord parce qu'on a une périodicité, on a une ligne éditoriale. Donc il me semble intéressant de parler de journal en ligne.
La périodicité, ça signifie que tous les articles tombent un jour?
Pas exactement, c'est-à-dire qu'on fait un mixte entre une périodicité qui serait celle d'un journal papier, c'est-à-dire un quinzomadaire, donc qui paraît un mercredi sur deux, et dans lequel nous présentons la majeure partie de ces articles. Et puis, pour obéir aussi à cette logique de renouvellement de l'Internet, nous renouvelons la une tous les deux ou trois jours. Donc actuellement, par exemple, aujourd'hui, vous avez un article de l'excellent Maurice Mourier sur une biographie de Baudelaire, hein, qui dit pourquoi Baudelaire c'est l'écrivain qu'on aurait toute raison de détester d'une certaine manière et qu'en fait on ne fait qu'adorer.
Alors pourquoi ?
Alors, non, je vous lis l'extrait de son chapeau. Il n'y a pas moyen d'aimer cet homme-là. Il est odieux. Il n'y a pas moyen de ne pas l'aimer. Il est trop attachant. On découvre avec lui ce qu'est la poésie vivante, érotique, sans garde-fou, moderne absolument et qu'il l'est resté, vers et prose de la même frappe inoubliable, animé par la même passion. Donc, je pense que ça donne quand même envie de lire.
C'est à la une, d'ailleurs, aujourd'hui.
C'est à la une aujourd'hui, mais il y a quelques jours, c'était Olivier Cadiot qui était à la une de notre journal. Donc, voilà, on essaye à la fois de s'adapter à ce média qui nous était un peu inconnu, donc à nous anciens de la nouvelle quinzaine littéraire, mais qui avec lequel nous nous amusons beaucoup. En fait, il est très intéressant d'essayer de penser ce que peut être un espace critique sur Internet, c'est-à-dire un espace qui parle de l'actualité des livres, parfois l'actualité du monde, et qui le fait toujours par la médiation d'un texte, donc avec une certaine forme de distance. Et ça nous paraît précieux de préserver des espaces de ce type sur Internet qui renouvellent si facilement ces discours, qui donnent une telle place à l'opinion directe. C'est-à-dire revendiquer cette part d'indirect nous paraît intéressant, en tout cas nous motive. Et on a finalement soit inventé une demande, soit répondu à un besoin, puisque en un an et demi d'existence, voilà, on s'est vraiment installé dans le paysage. On a à peu près 20 000 sessions par mois, donc à peu près 45 000 articles lus par mois.
Deux fois plus que l'an dernier déjà.
Oui, deux fois plus que l'an dernier, donc on est content de la fidélité de nos lecteurs.
Mmh. Ça vous prend beaucoup de temps, j'imagine, parce que alors il y a trois permanents, mais le reste des collaborateurs sont bénévoles. Vous-même, vous êtes, je crois, parmi les bénévoles.
Oui.
C'est un engagement très important.
C'est un engagement, mais c'est un engagement qui est permis par l'existence quand même d'une communauté qui existe depuis longtemps, qui était soudée, donc qui a accueilli aussi de nouvelles plumes. C'est aussi la force d'un journal, trouver des plumes, de faire écrire les gens.
Il y a aussi qui sont ça. Des experts. Vous tenez à ce que.
Alors, sur certains sujets, on souhaite montrer qu'une expertise expertise, qu'il y a des experts qui sont capables de mettre leur savoir au service de toutes les lectrices, de tous les lecteurs, qui ont une vraie énergie de transmission des choses, qui ne maintiennent pas leur savoir dans les sous-sols des bibliothèques ou dans les éditions universitaires. C'est utile aussi, mais donc on a par exemple là aussi à la une, grâce à Jean-Yves Potel, la recension 15 jours après sa sortie d'une énorme somme sur l'Europe et sur les lieux de mémoire de l'Europe. Une somme, bon, il faut quelqu'un qui soit capable à la fois de lire cela et de pouvoir en dire quelque chose.
Alors où sont-ils ces lieux de mémoire de l'Europe ?
Bah précisément, ce qu'ils montrent et ce que cette somme montre, c'est qu'ils sont difficiles à trouver. Alors évidemment, la réponse de cette somme, c'est de caractériser cela par la pluralité et la diversité. Mais ce que montre notre collaborateur, c'est qu'ils sont d'une certaine manière introuvables et que c'est peut-être le problème aussi de l'idée d'Europe. Parce que, par exemple, ne serait-ce que la mémoire de la colonisation, par exemple, c'est absolument pas une mémoire partagée dans le quotidien des Européens. Ou même la mémoire de la Grande Guerre, c'est une mémoire qui n'est un lieu de mémoire non partagé. Voilà, donc ça pose des questions, c'est intéressant.
Très bien. Donc rappelez-nous l'adresse du site en-attendant-nado.
Voilà.
Point.
En attendant Nado avec des tirets entre les mots.
C'est plus facile.
Oui, ce sera plus facile.
Et on donne rendez-vous à nos auditeurs donc sur votre journal en ligne. Merci beaucoup, Tiphaine Samoyo.
Merci, Mathieu.
Et nous continuons à parler d'Alexandre Dumas dans la compagnie des auteurs sur France Culture avec Julie Anselmini et aussi en archive avec André Mauroy.
Il n'était par nature ni un érudit ni un chercheur. Il aimait l'histoire, il ne la respectait pas. Qu'est-ce que l'histoire, disait-il, c'est un clou auquel j'attache des romans. Il froissait la robe de Clio. Il pensait qu'on a le droit de prendre avec cette muse de grande liberté à la condition de lui faire un enfant. Se sentant viril et fort capable de faire l'enfant, il n'était guère disposé à écouter les minutieuses confessions de cette muse un peu pédante, volontiers radoteuse et qui s'attache aux détails. Il savait bien que comme historien on ne le prendrait jamais au sérieux. Ce sont les histoires illisibles qui font sensation, disait-il. C'est comme les dîners qu'on ne digère pas. Les dîners qu'on digère, on n'y pense plus. À la vérité, il ne possédait pas la patience nécessaire à l'historien. Même pour le roman historique, il souhaitait réduire les recherches au minimum. Il avait besoin qu'on lui apportât une matière première sur laquelle il pût exercer ses dons d'animateur.
André Mauroy qui faisait remarquer, Julie Anselmini, que l'histoire pour Dumas était peut-être davantage un décor qu'autre chose, une toile de fond. En même temps, il disait pas n'importe quoi. Comment vous voyez ce rapport à l'histoire de Dumas ?
Alors c'est vrai qu'il disait le premier, j'ai violé l'histoire mais je lui ai fait de beaux enfants. Cela dit, je crois qu'il serait très réducteur de considérer que l'histoire dans les romans historiques de Dumas n'est qu'une toile de fond ou un décor. Je crois que l'histoire est le véritable objet de la représentation des romans de Dumas. Le désir non seulement de représenter et de figurer l'histoire, mais le désir de la comprendre. Parmi les romans historiques de Dumas, on cite souvent sa fameuse trilogie des Trois Mousquetaires qui se passe sous Louis XIII et puis pour ce qui est du vicomte de Bragelonne sous Louis XIV. On pense aussi souvent à sa trilogie des Valois, inaugurée par la reine Margot. En réalité, je crois que la La période à laquelle Dumas aura consacré le plus de romans historiques, c'est la période de la Révolution. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez révélateur de cette interrogation que soulève l'histoire pour Dumas, et particulièrement cette période climatérique, hein, qu'est la Révolution française. Comment on en est arrivé là ? Comment comprendre la Révolution et au sein de la Révolution la terreur qui interpelle particulièrement Dumas. À partir de la Révolution, que se passe-t-il? Où va le peuple français et l'humanité? Cette question du devenir historique, elle est absolument centrale pour Dumas.
Mais c'est quoi ce rapport à la France finalement qu'il entretient? Alors quand vous avez préfacé Gaulle et France, ça ne va pas jusqu'à la Révolution, mais comme vous parlez à présent de la Révolution, on sent que c'est toute l'histoire de France qui passionne Dumas.
Oui, c'est toute l'histoire de France. Hein. Il aura consacré des romans situés à l'époque du Moyen-Âge, comme Le Bâtard de Mauléon au XVIe siècle, comme La Série des Valois, sous Louis XIII, sous Louis XIV, et puis jusqu'à l'époque contemporaine. Hein.
Mais donc, c'est quoi ce rapport qu'il a alors avec ce pays, finalement? Un rapport, comment le définir?
Je crois que chez Dumas, l'intérêt pour l'histoire, au fond, ne se dissocie pas tellement d'un intérêt, dirais-je, politique. Mm-hmm. Dumas adopte en réalité assez tôt des positions républicaines. On sait qu'il adopte le nom de son père, Dumas, au détriment de celui de son grand-père, David de la Payetterie. C'est en soi une première prise de position. En 1830, Dumas va faire le coup de feu avec les insurgés de juillet, au moment des Trois Glorieuses.
Et pas qu'un peu, enfin, c'est quand même assez important, ça, dans sa biographie, justement, cette participation à l'insurrection.
Oui, c'est très important. Il est physiquement présent sur les barricades. Il va prendre une poudrière à Soissons,
ville royaliste. Ça, c'est son grand fait d'armes.
Bien sûr, oui, qu'il l'écrit sous la forme d'une légende, hein, d'ailleurs, dans ses mémoires. Au lendemain de l'avènement de Louis-Philippe, Dumas choisit également de démissionner de son poste de bibliothécaire pour conserver son indépendance. Donc, il affirme très tôt des positions républicaines. Qu'il ne démentira jamais, hein, même si, par ailleurs, c'est vrai qu'il a quelques amitiés, disons, princières, hein, qu'on a pu lui reprocher. Mais ce que je veux dire, c'est que cet engagement républicain, il est également sensible dans la façon dont Dumas écrit l'histoire de France, qui est une écriture orientée de l'histoire, destinée aussi à saisir le sens politique de l'histoire. Donc je crois que le désir d'embrasser cette histoire de France dans sa totalité est inséparable d'une interrogation sur, au fond, l'avenir. Et pour Dumas, cet avenir, il est démocratique, il est républicain.
Mmh. Alors, finalement, on peut se demander dans quelle mesure faire l'histoire a été ou non aussi important que de faire des histoires. Parce que dans ses mémoires, quand il parle justement de cette révolution de juillet, on a l'impression qu'il a pris plus de plaisir pendant ces jours-là que pendant tout le reste de sa carrière d'écrivain. Qu'en pensez-vous, Julie Anselmini?
Dumas a un goût pour l'action, hein, et pour l'engagement politique. Au-delà de 1830, il y aura d'autres épisodes, hein, où Dumas s'investira pleinement dans l'action politique. Alors, il fait notamment une tentative d'ailleurs malheureuse en 1848 pour se faire élire à l'Assemblée constituante de la Deuxième République. C'est une tentative qui échouera.
Contrairement à d'autres écrivains de son temps, Victor Hugo par exemple, il a dû, lui qui était ami avec Victor Hugo, éprouver un petit peu de tristesse sans doute de ne pas réussir à entrer à l'Assemblée.
Oui, c'est un épisode qui l'affecte. Hein. Les années 1848, 1849, c'est 1850. Et puis après, il y aura l'épisode de l'exil aussi, hein, suite au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. C'est des années, je pense, difficiles, hein, pour Dumas. Et ça marquera d'ailleurs un tournant dans sa carrière. Dumas ne se désengagera pas pour autant de l'action politique. On sait que, par exemple, en 1860... Dumas renouera vraiment avec l'engagement politique au moment de l'expédition des Mille menée par Garibaldi en Italie. Et à ce moment-là, en 1860, Dumas rejoint Garibaldi, qu'il a fourni à qui il a fourni des armes. Et il fonde à ce moment-là aussi un journal, l'Independente, à Naples, pour soutenir l'action garibaldienne.
Mmh. Mais en même temps, il voit bien que l'histoire, c'est quelque chose de sale, de sanglant, d'un peu informe. Finalement, est-ce qu'il aime profondément l'esprit de révolte ou est-ce que c'est l'action qu'il aime ?
Alors, l'esprit de révolte... je ne sais pas, Dumas n'épousera jamais des positions ultra radicales. Hein. En 1848, notamment, on sait qu'il refuse d'être catégorié parmi les rouges. Donc ça reste quelqu'un de relativement modéré, qui se défiera toujours beaucoup, notamment de la violence hein, dans l'histoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que la terreur est une période qui lui pose particulièrement de problèmes.
En tous les cas, il ne dédaigne pas de faire quelquefois la fête, et notamment, on va le voir, une grande fête pendant laquelle il a peut-être tourné un peu le dos à la Révolution. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Il faut parler un petit peu de la personnalité aussi un peu exubérante de Dumas qui se traduit, je le disais à l'instant, par des grandes fêtes. Alors de la Croix qui couvre de fresques un salon tout entier, des saumons de 50 livres, Julie Anselmini. C'est important ça aussi dans la biographie d'Alexandre Dumas. Ça révèle quelque chose selon vous ?
Si on fait le portrait de Dumas, dire que c'était quelqu'un de particulièrement sociable est important. Hein. C'est évident que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui était très généreux. On sait que même quand quand il gagnait beaucoup d'argent, il avait rarement un sou en poche, parce qu'il était très, très dépensier aussi. Et puis il donnait facilement de l'argent à qui en avait besoin. En 1833, il y a effectivement un grand bal costumé organisé par Dumas qui est resté célèbre hein, dans les annales parisiennes. Une fois qu'il est possesseur du château de Monte Cristo, à la fin des années 1847, il y organise aussi des réceptions très fastueuses où il invite tous ses amis écrivains, journalistes, éditeurs, etc.
Il faut parler de ce château parce que c'est quand même une bâtisse que lui enviera même Balzac. À quoi il ressemblait ? À quoi il ressemble toujours d'ailleurs, parce qu'on peut toujours le visiter.
Alors le mot de Balzac peint assez bien cette demeure. Hein. Balzac disait avec envie, hein, en écrivant à la comtesse Anska, c'est la plus royale bonbonnière qu'on ait jamais vue. Donc ça ressemble effectivement un petit peu à une bonbonnière. C'est un peu, je sais pas, c'est un petit peu rococo, très très orné. Dumas, à l'intérieur de certaines pièces, avait fait orner les murs avec les portraits et les noms de ses personnages les plus célèbres. Ouais. Donc c'est un petit peu un monument à sa gloire aussi.
Donc alors, il y a lui, il y a son nom évidemment un peu partout, mais il y a aussi Homère, Sophocle, Shakespeare, Byron et puis Victor Hugo aussi, qui n'hésite pas à afficher comme ça chez lui.
Je pense que Hugo a probablement été l'ami le plus cher de Dumas et celui qu'il estimait le plus parmi ses amis. Ils se rencontrent assez tôt, hein, en 1823 à Paris. Ils sont tout de suite très amis. Ils connaissent une brouille au début des années 1830 parce que leurs pièces se partagent l'affiche. Je crois que c'est à la Porte Saint-Martin et puis chacune de leurs maîtresses, Juliette Drouet pour Hugo et puis Ida Ferrier pour Hugo, sont également en rivalité au théâtre. Donc il y a une brouille à ce moment-là au début des années 1830. Mais je crois que hormis cet épisode, ils restent extrêmement liés. Et après l'exil, de Hugo et l'exil beaucoup plus bref de Dumas à Bruxelles, les deux hommes auront une correspondance très, très fournie. Et on voit bien à la teneur et au style de leurs lettres combien leur amitié est étroite. Mmh.
Aucune popularité en ce siècle n'a dépassé celle d'Alexandre Dumas, écrivait Victor Hugo à la mort d'Alexandre Dumas. Bah, la sienne peut-être quand même, celle de Victor Hugo lui-même.
Oui, Dumas avait la plus grande admiration pour Hugo. Hein. Je crois qu'il disait qu'il donnerait volontiers toute son œuvre pour avoir écrit un seul vers de Hugo. Alors que Hugo est proscrit sous le Second Empire, Dumas reste pour lui un soutien absolument indéfectible. Dans le journal que Dumas fonde en 1853, Le Mousquetaire, on voit très souvent apparaître le nom de Hugo, comme un hommage et aussi comme un acte de résistance au Second Empire, hein, puisque citer Hugo à ce moment-là n'est pas anodin. Et effectivement... Oui, il y a des lettres de Dumas qui révèlent l'admiration la plus intense et réciproquement. Hugo écrira un très bel éloge funèbre à Dumas, où
Donc
il dit qu'il a été un semeur de civilisation.
Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, un semeur de civilisation?
Ça, c'est une métaphore que je trouve intéressante parce qu'elle elle est dans la continuité d'une image que Dumas utilise aussi. En se mettant justement aux côtés de Hugo, je crois que c'est dans le Mousquetaire, ce journal, qu'il dit que Lamartine est un rêveur, qu'Hugo est un penseur et que lui-même, Dumas, est un vulgarisateur. Et il utilise ce terme, vulgarisateur, dans un sens très noble. Et il se félicite, il se fait gloire d'avoir justement vulgarisé, c'est-à-dire popularisé, tout un ensemble de savoirs, notamment le savoir historique. Et donc finalement, cette idée que c'est un semeur de civilisation est un petit peu dans le fil de cette idée. Hugo dit, je crois, dans le même écrit, que Dumas crée la soif de lire. Et mmh. que c'est en créant cette soif qu'il sème la civilisation de par le monde. Hein, parce que Dumas a été assez rapidement traduit et édité dans tous les pays dans un bon nombre de pays du monde.
On a parlé de l'acmé, de la popularité, de la richesse aussi de Dumas. On n'a pas parlé de la déchéance, le mot est peut-être trop fort, qui va suivre. Il va être obligé de vendre son fameux château. Qu'est-ce qui explique finalement qu'au fur et à mesure, comme ça, Dumas va un petit peu sombrer, Julie Anselmini?
Alors, si on voulait situer Oui, l'apogée peut-être de la carrière de Dumas, effectivement, c'est peut-être cette année 1847. Dumas devient l'acquéreur du château de Monte Cristo, il ouvre aussi le théâtre historique, dont il est le directeur et où il va d'ailleurs principalement faire jouer les adaptations théâtrales de ses propres romans. Et puis, à partir de 1848, il y a une césure. Le théâtre en général, hein, pas seulement celui de Dumas, est dans une très mauvaise passe à cause des événements politiques. Le théâtre historique va faire faillite et devoir fermer ses portes en 1850. À cela s'ajoutent pour Dumas les déconvenues politiques qu'on évoquait tout à l'heure. Peu après, il est obligé de partir en exil, pour des raisons d'ailleurs financières, hein, bien autant que pour des raisons politiques. Vers 1850, il rompt également avec Auguste Maquet, qui était son précieux collaborateur, hein, avec qui il a écrit quand même la plupart de ses romans les plus célèbres. Au début des années 1850, enfin, l'étoile de Dumas fils commence à faire pâlir celle de Dumas père. Et je crois que pour tout cet ensemble de raisons, Dumas se sent aussi tout simplement, je pense, vieillir. Il y a une forme de nostalgie qui s'installe chez Dumas et effectivement, il commence à courir un petit peu après un succès et une célébrité qui lui échappe.
On a dit, Julie Anselmini, qu'il ressemblait à certains de ses personnages, peut-être à D'Artagnan. Qu'est-ce qui pourrait rapprocher le personnage de l'auteur?
Alors, si on regarde le parcours de D'Artagnan, il est en effet tentant de faire des analogies avec le parcours de Dumas. Hein. D'Artagnan arrive à Paris tout fringant, hein, même si c'est sur une vieille rosse, comme on le sait, bouton d'or. Rapidement, il réussit à conquérir sinon la fortune, du moins une certaine notoriété parmi les mousquetaires. Et puis il va ensuite enchaîner les faits d'armes. Et puis, dans 20 ans après, et surtout le vicomte de Bragelonne, on voit D'Artagnan parvenu au sommet de la gloire. Hein. Il finit quand même capitaine des mousquetaires du roi, mais déclinant, et puis ayant perdu un petit peu cette énergie, cette intensité qui avait caractérisé sa jeunesse.
Et là, pour cette raison, on peut aussi retrouver l'auteur dans le personnage. Merci beaucoup, Julie Anselmini, pour ce parcours dans la vie rocambolesque d'Alexandre Dumas. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un essai, le roman d'Alexandre Dumas, Père ou la réinvention du merveilleux, aujourd'hui disponible chez Classique Garnier. Et puis chez le même éditeur, vous avez aussi réédité et préfacé son livre « Gaulle et France ». Demain, nous nous pencherons sur le théâtre d'Alexandre Dumas, une part un peu délaissée de son œuvre, et c'est bien dommage, nous le ferons avec Sylvain Léda. Mais avant toute chose, voici Jacques Bonnafé sur France Culture qui continue de nous lire des poèmes.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, feuilletons. Feuilletons ensemble au gré des livres qui sont arrivés ces derniers temps. Par exemple, « Suite et fin », c'est un livre de Jean-Luc Steinmetz au Castor Astral. Premier chapitre, premier livre, « Commencement-sement ». Commencement-sement. Ah, ça rappelle Bernard Lubat. Commencer, comment commencer, comment semencer. Commencement-sement dans « Suite et fin ». Un jour à Brest, on m'apprit qu'il n'était plus, marquant le jour d'une ombre à ses pieds. Elle s'est donc enfuie de lui toute seule, insaisissable, passant les claires voies, gagnant l'invisible en toute hâte. En moi, sur le champ, monta le mystère de chaque instant. À la pointe du fléau de la balance, comme à celle de la boussole, des infinis croisent les petites substances d'ici-bas. Leurs échanges perpétuels confondent les degrés du réel, du songe et du mensonge. Il n'appartient plus à l'air que tu respires, ni à l'heure du temps. D'autres ajoutent, je donnerai cher pour... Mais c'est toute leur vie qu'il leur faudrait offrir, et rien, c'est certain, en échange. Peut-être devons-nous laisser à même la nuit, obscurité, effacement, oubli, cela qui subsistait en nous, avec l'âpreté d'une ortie indéracinable près d'un tas de bois en plein hiver. Ça me remet en souvenir... Prose du Suaire, un poème de Michel de Guy pour Abdelwahab Medeb. Poème extrait de la vie subite et qui a été traduit en 20 langues, me dit-il. Hindi, arabe, vietnamien, latin, turc, russe, espagnol, chinois, roumain, hébreu, japonais, slovène, anglais, persan, italien, allemand, portugais, hongrois et grec. Ce que Michel de Guy appelle un tour de Babel. La mort sur le lit te défigure. Elle est partout, à la place du corps. Ton visage se retire de la prosopopée. Une vanité s'émacie dans le drap. Par les yeux enfoncés, tu recules en toi, où tu sais qu'il n'y aura plus de toi. Si près de ton visage, ce jour-là croisé, avec le nôtre dans l'approche du baiser sur les joues, mon ami, tu mourrais sous nos yeux. Je t'ai baisé la main pour te dire adieu. Comme si nous pouvions t'envoyer là d'où tu nous veillerais, nous parlerais, sachant qu'il n'y aurait ni au revoir, ni adieu. D'où que tu sois, tu es ici. Tu parles tes poèmes dans la nuit de nos jours. Un nous peut te jurer une fidélité. Maintenant le voile, puis le suaire de nos pages appliqués sur ta vie passible de la transcendance qui l'a configurée, relève les traces de cette transe qui la transfigura. Voici venu le temps des viveurs et des tueurs. À quoi bon les poètes, demandent les penseurs, tu réponds, dans la cité politique. Bon, pas seulement pour le deuil et les danses. Ce que tu ris de la vie, avec ta vie subite son hôte, la vie à l'œuvre et la vie pour le convivre, il n'est jamais trop tard pour le trop tard.
Merci Jacques Bonafé. Cette semaine, vous feuilletez donc des publications récentes avec aujourd'hui des pages arrachées à Michel Deguy.